Bonjour, c'est Hideo Kojima. Bienvenue sur GameBlog.fr.
Bonjour, je suis Yoji Shinkawa. Bienvenue sur GameBlog.fr.
Bonjour, je suis Yumi Kikuchi. Bienvenue sur GameBlog.fr.
Bonjour et bienvenue sur les podcasts de GameBlog.fr, un podcast exceptionnel. Ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on vous l'avait promis. Vous les avez reconnus, ils sont tous les trois là. Hideo Kojima, Yoji Shinkawa et Yumi Kikuchi. Une sorte de dream team de l'équipe de Metal Gear Solid 4. Oui, podcast dédié à cette interview forcément exceptionnelle. Julo, Raan, Kaf... Tout le monde est chaud pour
encore bravo. Bravo, bravo. Ils ont amené la table de mixage jusque à Monsieur Kojima.
Exactement, ça nous a vraiment fait plaisir.
Il a fait quand même le plus gros du chemin jusqu'à Paris.
Ouais, mais par contre, je suis déçu, il n'y a pas la table à repasser.
C'est vrai, on ne pouvait pas tout prendre dans le sac, ça ne rentrait pas.
C'est vrai. Bon, je suis sûr que là, derrière votre PC ou avec votre iPod, vous êtes chaud comme la braise, la tension est montée. Donc on ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Hideo Kojima, Yoji Shinkawa, Yumi Kikuchi en exclusivité pour GameBlog.fr. C'est maintenant, c'est tout de suite.
Et c'est
forcément, c'est que du bonheur. Écoutez. Ma toute première question s'adressera à vous, monsieur Kojima. J'aimerais savoir quelle part de vous y a-t-il dans le personnage de Snake, en fait, aujourd'hui, après tant d'années passées en sa compagnie. Est-ce que Snake est proche de moi ? C'est vrai, je me suis longtemps posé la question en fait. Vous savez, quand on passe autant de temps avec quelqu'un, finalement on finit par se poser la question qui passe en premier ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est Snake ? En fait, à l'origine, lorsque j'ai créé Snake, j'ai toujours pensé qu'il ressemblait avant tout au joueur. Vous savez, en fait, c'est assez différent d'un personnage de film ou de roman. Il fallait un héros auquel on puisse s'identifier, mais plus les années passent à ses côtés, plus je le côtoie, plus je réalise combien j'insuffle de plus en plus d'aspects de ma personnalité dans celle de Snake. Et je dois admettre aujourd'hui, Snake est beaucoup plus proche de moi que ce qu'il n'était à l'origine. En fait, je réalise que c'est capital pour moi, parce que quand je regarde Snake, Big Boss, je me rends compte que ça ressemble à une relation entre un parent et son enfant, un père et son fils. Et rétrospectivement, par rapport à ma propre expérience, je me suis dit, peut-être que c'est parce que j'ai perdu mon père assez tôt dans la vie que l'histoire a pris cette tournure. Comment un fils essaye de surpasser son père. Ça, je l'ai réalisé récemment en regardant en arrière. Cette fois-ci, dans MGS4, Snake est vieux. Et j'ai fait exprès de jouer sur cette similitude avec moi-même. Parce que oui, même si j'ai vieilli, je reste toujours présent. C'est comme si Snake était à mon image. On partage vraiment cette facette. Monsieur Kojima, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, vous m'aviez avoué être un peu déçu que votre fils ne s'intéresse pas vraiment à Metal Gear. Alors, est-ce que justement l'intégration du personnage de Snake dans le dernier Smash Bros. Brawl était une manière finalement de l'y intéresser, comme on l'avait vu avec Ape Escape par exemple dans Metal Gear Solid 3, ou est-ce qu'aujourd'hui il a enfin un peu grandi et il s'intéresse enfin un peu à Metal Gear Solid 4 ?
Et donc, son shinpai wa muyo desu ne.
En fait, je vous mentirais si je vous disais que mon fils était un grand fan de Metal Gear. Mais les choses ont bien changé depuis la sortie de MGS Portable Ops, sorti sur PSP il y a 2 ans au Japon. En fait, à ce moment, le titre a remporté un grand succès chez nous, surtout auprès de la génération de mon fils, les collégiens. Ce jeu était tellement populaire à l'école que forcément, mon fils y est mis. Du coup, maintenant, je crois qu'il attend vraiment la sortie de MGS 4. Pour tout vous dire, aujourd'hui, quand je rentre à la maison, je le surprends parfois en train de se cacher, de ramper. Et quand il m'aperçoit, il fait le même bruit. Maintenant, il est vraiment dedans. Alors, l'un des points essentiels dans la série des Metal Gear, c'est bien évidemment les thèmes qui sont explorés un petit peu dans toute la saga, comme la transmission des gènes, du savoir, des connaissances, qui sont très présents depuis le début de la saga. J'imagine bien évidemment qu'il y a un thème central dans Metal Gear Solid 4. Alors, est-ce que vous pourriez, Monsieur Kojima, nous en parler un petit peu plus ? Et surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous souhaiteriez que le joueur retienne ? Pour être franc, cette fois-ci, le thème principal est assez complexe à saisir. En effet, si dans les précédents Metal Gear, la transmission par les gènes et la culture étaient des éléments centraux, pour ce nouvel épisode, j'ai opté pour une voie différente. Je l'appelle le sens. Dans le fond, c'est comme la volonté, l'esprit d'une personne, sa pensée.
Par le passé, j'utilisais beaucoup des textes, des séquences narratives. On pouvait percevoir le message directement. Mais si je devais schématiser, on pouvait assimiler ça à la manière dont un parent éduque ses enfants quand il lui dit « Fais ci, fais ça, lis ce livre, tu dois étudier ça ». C'était comme une voix très bruyante qui venait du jeu. Cette fois-ci, j'opte pour une approche plus indirecte. Par exemple, présenter Snake, vieux, mais toujours combatif, ne baissant jamais les bras, est un message en lui-même. Mais j'ai conscience que c'est quelque chose de vraiment difficile à expliquer. En fait, j'aimerais que dans 10 ans, certains joueurs puissent ressentir quelque chose que je voulais transmettre ici. C'est un petit peu comme si cette fois, le père ne disait rien à l'enfant, mais qu'en voyant son père travailler, l'enfant perçoive le concept même du travail, et qu'en cela, il le respecte, qu'il en comprenne les répercussions sociales. En fait, ça fait partie des choses qu'on ressent plus qu'on ne les comprend vraiment, mais qui révèlent leur sens lorsqu'on grandit, qu'on s'aguerrit. Lorsqu'on est encore très jeune, il est ainsi difficile de cerner vraiment ce que font vos parents, ce pourquoi ils vous indiquent certaines choses. Plus tard, on comprend ce que cela signifiait. C'est un sentiment fort que j'ai vraiment essayé d'injecter au cœur de Metal Gear Solid 4. Une dernière question vous concernant, Monsieur Kojima. Il y a quelques semaines, sur Internet, vous avez fait part de votre émoi, quelque part, sur la baisse d'importance de l'impact des développeurs japonais. C'est quelque chose que nous avions aussi noté, nous en avions parlé dans notre podcast sur Gameblog.fr. J'aimerais savoir justement un petit peu bah, où vous situez aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une véritable responsabilité en tant que développeur japonais, avec un titre comme Metal Gear Solid 4, pour ramener, par exemple, le développement japonais sur le devant de la scène? Quelle est un peu votre vision aujourd'hui sur la question? En fait, je ne me considère pas vraiment comme un leader, comme la tête de file de la communauté des développeurs japonais. En fait, je suis d'ailleurs persuadé qu'il faut dépasser l'idée de nationalité. C'est un débat qui appartient au passé. Aujourd'hui, que vous soyez japonais, européen, américain, en fait, peu importe. L'important, c'est le mélange. Alors bien sûr, il est important de garder son identité, sa particularité, mais l'essentiel reste de s'ouvrir. Les développeurs sont censés donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils créent un jeu, chacun avec leur héritage culturel. Mais il devrait s'agir d'une manière globale de développer des jeux. Des différences dans la manière de développer un jeu, oui, il en existe. Mais si on se concentre sur la créativité, il est évident que c'est universel, que chacun peut véhiculer des messages à l'impact fort. Il faudrait vraiment pouvoir rassembler les compétences de chacun pour faire progresser la création mondiale. Pour moi, le but ultime pour une équipe créatrice, ce serait de rassembler à l'équipe de Star Trek au sein de l'Enterprise. Vous savez, dans ce vaisseau, il y a un noir américain, un asiatique, un blanc caucasien, et il y a même Monsieur Spock, qui est un extraterrestre vulcain. En fait, toutes ces cultures se mélangent, et c'est ça qui a du sens à mes yeux. Et pour reprendre cette analogie, je pourrais bien être le capitaine de ce vaisseau. Voilà, on vous l'avait promis dans ce podcast exclusif, interview exclusive de Monsieur Kojima et de Monsieur Shinkawa. Et ben justement, je suis avec Monsieur Shinkawa et ma première question, Yoji Shinkawa, serait de savoir si, à l'image du ninja dans Metal Gear Solid 1, que vous aviez énormément poussé, c'était même vous qui avez souligné cette idée, soufflé cette idée à Monsieur Kojima, est-ce que dans cet épisode de Metal Gear Solid 4, il y a un personnage que vous aviez particulièrement envie de pousser, de mettre sur le devant de la scène?
Il y a Raiden qui fait sa réapparition et donc dans le 2 il y avait aussi Raiden, mais apparemment beaucoup de joueurs n'avaient pas très apprécié ce personnage, et personnellement c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, et donc je voulais lui donner sa revanche, une chance pour justement le réconcilier avec les joueurs. Donc cette fois ce sera, je pense, c'est plutôt Raiden qui m'a demandé de lui donner cette revanche et de lui permettre justement de le faire. Voilà.
Pour la première fois dans Metal Gear Solid 4, vous avez fait appel à des acteurs professionnels, des actrices. On va le voir bientôt avec Yumi Kikuchi qu'on reçoit dans notre podcast exclusif. Moi, une question que j'aimerais vous poser, Monsieur Shinkawa, c'est entre travailler de manière traditionnelle, finalement sur une feuille vierge, comme vous aviez toujours l'habitude de le faire, ou incorporer justement le jeu d'actrice, la 3D qui est de plus en plus omniprésente, on le voit même d'ailleurs dans les artworks de présentation promotionnelle du jeu et les nouvelles technologies qui se sont offertes. Finalement, où va votre préférence vers la liberté que vous offre la feuille de papier ou vers les possibilités nouvelles de la direction d'actrice, pardon?
そうですね。実際、今までは一人で
C'était une expérience nouvelle parce que j'ai travaillé avec une véritable actrice pour interpréter mon personnage et aussi avec tout un staff qui m'a supporté tout le long de la création du personnage, le staff pour le maquillage, les cheveux, le styliste pour les cheveux. Et donc c'est vraiment toute une équipe qui a travaillé avec moi. C'était vraiment une première dans mon style de travail. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à créer petit à petit le personnage de Rising.
Je suis particulièrement heureux de vous recevoir, Yumi Kikuchi, pour parler de Metal Gear Solid 4. On a vu Monsieur Kojima qui nous parlait de la création pure, Monsieur Shinkawa de la partie plus artistique. Vous, justement, vous apportez aussi une nouvelle dimension. Vous êtes actrice au Japon et là, vous incarnez le personnage, l'une des héroïnes de l'unité des Beauty and the Beast. Est-ce que c'était votre premier contact avec le jeu vidéo? Et puis surtout, comment vous avez interprété ce personnage si particulier?
ゲームに出演するのは声ではありますけれども、私自身が出てくるのは初めてですね。
Elle avait déjà participé à plusieurs jeux en tant que en prêtant sa voix à plusieurs jeux. C'est la première fois que donc elle a porté donc son visage à un jeu. Et donc ça c'était une expérience nouvelle. Et au début donc elle ne savait pas du tout où se placer par rapport justement au projet Beauty and the Beast puisque rien n'était concret. Donc c'est en discutant beaucoup avec Monsieur Shinkawa et donc Monsieur Hideo Kojima, et donc en prenant forme petit à petit. Petit à petit, elle a réussi à former un peu le visage de Beauty and the Beast elle-même, puisque elle-même au début ne savait pas du tout à quoi allait ressembler justement Beauty and the Beast. Donc au début elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre puisqu'en fait on lui a pris les plans de face, de profil, on lui a demandé de regarder en haut, on lui a moulé les cheveux, on l'a beaucoup maquillé justement pour parce qu'elle ne savait pas non plus au début quelle beauty elle allait interpréter. Donc c'est plus tard par la suite qu'elle a su que c'était Raging Raven. Et donc elle a aussi dû travailler sur le côté de la colère puisque elle devait justement exprimer ce côté ce sentiment de colère. Et ensuite pour le côté Beast qui a été en fait entièrement créé par Monsieur Shinkawa, c'est une fois que Monsieur Shinkawa a posé justement l'armure de Beast sur son visage en fait qu'elle a pu pour la première fois voir à quoi elle ressemblait dans le jeu en fait.
Voilà. Monsieur Shinkawa, dans le passé, on s'était déjà rencontré, vous m'aviez avoué que vous aimiez particulièrement travailler dans le train, alors ça m'avait un petit peu surpris, et à ce moment vous m'aviez expliqué en fait que c'est le mouvement du train qui stimulait finalement un peu la fluidité de votre trait. Alors moi ce que j'aimerais savoir tout simplement c'est, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça vous stimule toujours autant? Ou est-ce que finalement vous avez un peu changé de technique?
Je ne prends plus le train et je me déplace souvent en vélo. Et aussi, du côté personnel, donc depuis maintenant j'ai un enfant, donc c'est vrai que mon milieu a beaucoup changé. Ma manière de dessiner et le matériel que j'utilise actuellement n'a toujours pas changé depuis 10 ans. Et pour l'évolution des personnages, ça n'a pas été un trop gros problème, ça a été même assez naturel. Et je n'ai pas eu de problème, par exemple pour Snake, ça m'a été très facile de le faire évoluer à l'état actuel pour Metal Gear Solid 4.
Voilà ce podcast exclusif avec Monsieur Kojima, Monsieur Shinkawa et Mademoiselle Kikuchi arrive bientôt à son terme. Mais avant de le conclure, justement, j'avais une dernière question qui s'adresse directement à vous, Monsieur Shinkawa et Mademoiselle Kikuchi. Ça fait en fait des années que vous côtoyez Monsieur Kojima, tous les deux, au quotidien. Est-ce que finalement c'est difficile de travailler avec quelqu'un d'aussi exigeant que Monsieur Hideo Kojima? Ou finalement c'est quelqu'un de finalement assez simple?
そうですね。確かにずっとプレッシャーみたいなものは感じてる部分は。
Le fait de travailler avec Monsieur Kojima élargit beaucoup mon inspiration puisqu'il a souvent des idées originales et constantes. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées et le fait de travailler avec lui me permet justement d'évoluer aussi au niveau de mon originalité et de me surpasser constamment. Parce que c'est vrai que comme c'est une personne exigeante, j'ai pas mal de pression au niveau du design.
小島監督とはもう10年ぐらいの付き合いなんですけど、私は、
ça fait 10 ans que l'on se connaît. Et donc on va souvent dîner ensemble, voir des films, et participe aussi, on participe ensemble donc à la Hide Channel Radio, qui est donc en broadcast sur le site. Et donc j'adore aussi emprunter les livres, ce qui permet de connaître un certain côté personnel de la personne. Et donc en empruntant les livres de Monsieur Kojima, j'ai pu justement connaître ce qu'il appréciait en ce moment à la période, même pendant la création de Metal Gear 4. Et donc ceci m'a permis lors du tournage de la motion capture pour Metal Gear Solid 4 de pouvoir faire passer des idées ou de recevoir des idées de la part de Monsieur Kojima, même parfois difficile peut-être à entendre si c'était pour la première fois, mais ça s'est très bien passé grâce à ça. Et d'ailleurs les conditions de travail avec Monsieur Kojima sont excellentes. En fait je joue souvent aux jeux vidéo, et c'est la première fois que je vois l'envers du décor. Donc c'est la première fois que j'ai vu qu'il fallait vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes, d'argent, et ça m'a beaucoup impressionné. Et ça a été une très riche expérience pour moi-même.
Et bien voilà, c'était l'événement sur Gameblog.fr, un podcast exclusif hein, effectivement avec le trio de Metal Gear Solid 4, Hideo Kojima, Yoji Shinkawa, Yumi Kikuchi. Et ben voilà, c'est Gameblog.fr qui vous les offre sur un plateau doré pour cette semaine spéciale Metal Gear Solid, la saga. Hein, vous l'avez vu depuis lundi, 9h du matin. Ben vous pouvez revivre un petit peu l'ensemble de la série, des premiers pas en 1987 avec Metal Gear sur MSX, jusqu'à aujourd'hui, dans quelques jours maintenant, dans quoi, 48 heures la sortie, même pas 24 heures la sortie de Metal Gear Solid 4. D'ailleurs, dès demain, la semaine spéciale continue avec, vous allez voir en fait, la suite de cette interview, parce qu'en fait, on est un peu cachotté, on est comme ça, on a pas mis l'intégralité de l'interview, comme ça vous allez revenir, ça nous fera plaisir. Et puis il y a encore pas mal d'éléments supplémentaires, des petites révélations de Monsieur Shinkawa ainsi que Monsieur Kojima. On continuera l'interview cette fois par écrit, vous allez voir, puis vous allez pouvoir retrouver aussi l'intégralité de cette interview, plus des petits bonus. Vous verrez plus tout ça demain. Et puis pour ceux qui veulent se lancer dans le jeu, eh bien nous, ce qu'on va faire, allez, avec un tout petit peu d'avance et sans aucun spoiler, bien sûr, on le précise, puisque l'expérience Metal Gear doit se vivre de manière complètement vierge et neutre, eh bien on va vous parler un petit peu de nos premières impressions, allez, dans les quoi, les premières heures de jeu. Messieurs, vous avez tous essayé.
Ouais. On s'est spoilé pour vous.
On s'est spoilé pour vous.
C'est un peu ça.
Avec grand plaisir.
Non, surtout toi, t'as joué tout le temps.
Alors, Julo, justement, on va commencer par toi. Premier pas dans Metal Gear Solid 4, quelles sont tes premières sensations?
Eh ben, j'ai déjà eu des bonnes sensations, figure-toi, rien qu'à l'apparition de l'écran titre, qui est ma foi très joli, qui rappelle des souvenirs forts émotionnellement, n'est-ce pas?
Donc un écran titre, on va pas tout vous dire, hein, mais non, qui n'est pas fixe, on va dire. Voilà, c'est une séquence qui se passe devant nos yeux.
Je
dure quoi, 2-3 minutes?
C'est le plus beau press start de l'histoire du jeu vidéo.
Bah, en fait, c'est le premier press start où t'as pas envie d'appuyer sur start.
Bah, exactement.
C'est un peu le concept. Puis alors, il y a d'autres petites surprises aussi.
Il y a d'autres petites surprises, on va dire, tout de suite après. Mmh. Et là, encore une fois, on ne dira rien, mais disons que le début.
C'est terrible en fait. T'essayes de parler d'un truc, sauf que tu ne peux rien dire.
Non, mais disons qu'en tout cas, c'est très surprenant.
Très. Très, mais alors très surprenant, c'est du jamais vu dans les Metal Gear, c'est pas du jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, c'est d'ailleurs même très tendance, je serais tenté de dire ce qu'ils sont en train de faire.
On dirait que ça revient un petit peu, mais pas trop sur console, je crois. C'est plutôt.
J'ai l'impression de faire le jeu du Schmidt.
Ouais, c'est ça.
Disons, pour donner un indice, dans GTA, il y a quelque chose qui est assez similaire quand même.
C'est bien, grâce à cet indice, ils ne trouveront jamais.
Bah, si, ils trouveront, dans 24 heures, ils vont voir.
Non, parce que dans GTA, il y a tellement de trucs que c'est trop l'indice pourri. Quoi.
Ouais. Enfin, très honnêtement, c'est très surprenant, mais soyons très francs hein, quand même.
Au départ, ça choque.
Ça choque limite, genre, on se dit, mais qu'est-ce que c'est
qu'est-ce
que ce truc
passe,
et c'est peut-être pas forcément un ressenti très positif au début.
Non, au départ, non, mais finalement, en y prêtant attention, ça a un sens quand même.
Oui, non seulement, et puis on sait que. Enfin, on aime bien être bousculé quand même. Mais on sait que Kojima, il aime bien nous bousculer de temps en temps.
Trahir l'attente des joueurs.
Voilà, d'une manière ou d'une autre.
Voilà, sur ce coup-là, c'était réussi quand même.
Et puis avec le recul, on s'y retrouve toujours et on est toujours
conquis. Et nous, voilà, on arrive à surprendre les auditeurs qui ne savent absolument pas de quoi on parle depuis 5 minutes.
Exactement.
Moi, je trouve ça pas mal.
Moi, je vais être très très franc, hein, puisqu'effectivement, j'aime assez cette série, mais c'est pas être fan de la série, c'est plutôt l'apprécier parce qu'elle apporte dans le jeu vidéo la richesse au niveau du scénario et même ce que Kojima fait à la fois dans les jeux, mais même dans la préparation, avant, des années avant, grâce au trailer, quand ils mettent les joueurs sur certaines pistes.
Non, mais là, par exemple, c'est justement le premier aussi à dire que sur ce coup-là, il en a balancé beaucoup trop des trailers.
Voilà.
Oui, alors c'est l'autre truc qu'on retiendra. Voilà. On peut parler de ça maintenant, finalement.
Julo. Mais après, je reviendrai quand même ce que je disais parce que
je te laisse.
C'est que finalement, on a beau aimer cette série, il y a certains épisodes, ils ne sont pas tous de la même qualité, où il y a des moments.
Mais même si c'est des défauts.
Voilà, puis c'est très humain, il y a des choses qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins. Moi, je trouve pas tous les épisodes, par exemple la première moitié de Metal Gear Solid 3, je trouvais le rythme un petit peu lent, certaines séquences, je crois qu'on est assez d'accord, Kaf.
Moi, j'ai arrêté de jouer, j'ai jamais fini à cause
de... Parfois un peu too much en plus.
J'ai pas du tout accroché, je suis resté scotché sur la caméra trop près, sur les ennemis qui débarquent, alors parce que justement à cause de la caméra, tu les as pas vus, ils sont à 3 mètres.
La saga Metal Gear n'est pas une saga parfaite, très clairement, et on va dire, la première demi-heure de Metal Gear Solid 4, si vous avez vu certains des trailers, et je parle pas des tout derniers qui spoilaient un petit peu malheureusement, je vous invite vraiment à ne pas les regarder, vous êtes à quelques heures, retenez-vous encore. Mais enfin, on a quand même finalement vu beaucoup de choses sur les premières demi-heures de jeu. Ouais. Et du coup, on rentre dans le jeu en le connaissant quelque part un petit peu. Et du coup, il y a une espèce de pointe de... Je dirais pas de déception, mais...
C'est-à-dire que tu prends pas forcément le...
La baffe que tu devrais te prendre.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, le début du jeu, tu joues un petit peu et puis tu sens venir une scène que t'as déjà vue. Tu dis, là, il va se passer ça. Donc ça gâche vraiment la surprise, quoi.
Mais je pense que c'est valable surtout sur l'acte 1.
Ouais.
Voilà, et après, on va en prendre plein d'autres.
Exactement,
gueules.
On se souvient que pour Metal Gear Solid 2, tout le teasing avait été fait sur le tanker.
Qui était rien du tout, au final.
Voilà, et qui était
le prologue.
Là, c'est un peu pareil. Ouais.
À mon avis, ça va être ça.
Il a quand même montré plus. Il y a quand même des scènes avec des personnages importants qui débarquent dans les trailers, etc.
Ouais, mais dans les derniers, il a montré des trucs, moi, que j'aurais vraiment pas voulu
les
voir.
Déjà, je les ai pas regardés, je suis trop fort. Mais effectivement, les trailers qu'on avait vus avec les soldats, etc. C'est des trucs que tu retrouves très vite dans le jeu. Donc, c'est vrai que ça t'enlève la découverte, mais tu restes quand même confiant sur la suite.
C'est ça, c'est-à-dire que pour rester un peu dans le côté impression, etc., c'est vrai qu'il y a cette toute petite déception de t'attendre à ce que tu vas voir, etc. Mais quand même, c'est tellement maîtrisé, tellement péchu.
Justement, Julo, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu envie de revenir. C'est que moi, au début, je trouve qu'il y a une sorte d'ambivalence entre c'est très dramaturgique, c'est la guerre, des gens meurent en face de vous. C'est quelque chose, finalement, quand on est un peu gamer, qu'on a un peu l'habitude de voir, malheureusement. Ça rappelle un peu des séquences de Call of Duty, ça rappelle des séquences de guerre au Moyen-Orient.
Moi, je ne l'ai pas ressenti de la même manière, par contre.
Et à la fois, dans ces séquences très sérieuses, très sombres, y a plein de petits clins d'œil, petits trucs rigolos. Et du coup, c'est un peu ce qui a toujours fait la série Metal Gear. Hein. C'est à la fois panacher le fantastique, le très réaliste,
le
guerrier et le burlesque. Parfois un peu trop, justement, et du coup, ça décrédibilise un petit peu l'expérience. Et c'est vrai que dans cette première demi-heure, il y a. Le jeu, je sais pas, il se cherche un peu.
Tu sais pas sur quel pied danser. Ouais. Tu sais pas s'il cherche à dédramatiser, ou si c'est de la maladresse, ou si c'est une écriture qui se veut, justement, un peu comme ça. Mais là, le mot est bien choisi, burlesque. C'est vraiment, on cherche à en faire une tonne. Ouais. Mais le résultat est, à mon avis, on surprendra certains, ça c'est clair. Maintenant, je pense que...
Ça permet surtout d'en parler et de se faire, se faire chacun de récupérer ce que tu veux, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après, on va dire, cette première demi-heure, première heure, le jeu se pose beaucoup plus. Les cinématiques sont longues, certes. Il y a beaucoup
de toute façon, tu joues pas à Metal Gear si t'aimes pas te bouffer de la cinématique.
Mais c'est pas seulement la cinématique. Il y a plus de 10 heures de cinématique dans le jeu, soyons très clairs. À vous de vous faire un avis, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est insurmontable?
Je précise
horrible.
Que c'est fait avec le moteur du jeu, hein. C'est des cutscenes qui s'intègrent dans le jeu.
Tu peux faire pause pour aller pisser, c'est quand même vachement
bien. Oui, c'est bien pensé.
C'est bien pensé. C'est le seul truc qu'ils auraient dû faire depuis 1000 ans, mais bon.
Complètement.
Le truc assez incroyable d'ailleurs au départ, moi ça m'a vraiment impressionné, c'est la façon dont les transitions sont faites entre cinématique et le jeu. Quoi.
Complètement transparente, on passe sans transition aucune des cinématiques aux phases de jeu avec les visuels de vie, etc., qui s'impriment sur l'écran.
Ça, c'est génial.
C'est vrai que c'est assez classe. C'est assez classe. En plus, pour la chance, pour les bourgeois qui nous écoutent, qui ont une télé full HD,
faut dire que ça, juste, ça envoie quand même du lourd. Alors c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les développeurs, sur les productions, on va dire occidentales. C'est, les textures sont moins travaillées qu'un Assassin's Creed, qu'un BioShock. C'est en tout cas un traitement très différent.
Ouais, ça dépend
mais
de
par
quoi
contre,
en fait.
C'est d'une netteté
en
impressionnante.
Fait, les
quand même.
Murs, etc., sont effectivement moins incroyables que dans un Assassin's Creed. Mm-hmm. Pour prendre un exemple proche de nous. Maintenant, le boulot sur les costumes des personnages,
ah ouais. La fluidité des étoffes.
Ouais, oh. Mais c'est il y a un taf de malade sur les textures, les vraiment des
l'effet des profondeurs de champ est fantastique aussi. Ça,
voilà, en fait, ils ont bossé
bien.
Vachement sur les effets de caméra, j'ai l'impression.
C'est ça.
Plus que sur les textures de murs, les trucs comme ça.
Et ça donne tout de suite un côté cinématique, un côté cinéma.
Les explosions sont incroyables, les impacts de balles sont à tomber par terre.
Le
enfin,
son,
c'est la guerre quoi.
Les,
ouais.
Les sons sont prodigieux.
L'équipe sonore.
Une excellente ambiance sonore, vraiment.
C'est là qu'on voit aussi à quel point c'est super important. Quoi. Ouais.
Ah oui, non, là, il faut y jouer avec le bon son à fond dans les oreilles parce que c'est juste incroyable.
Clairement. Quelque chose qui est vraiment aussi notable, et là qui ne sera pas un spoiler, hein, mais c'est vraiment la confirmation en tout cas que, mine de rien, quand même, la série des Metal Gear a pas mal évolué. On lui avait reproché, et finalement à juste titre, une prise en main un peu archaïque, une caméra qui était restée, on va dire, de trois quarts, qui empêchait un peu la vision, ce qui avait posé certains problèmes dans Metal Gear Solid 3, où on était dans cette jungle incroyable, et finalement on ne voyait pas à plus de 10 mètres, ce qui est un peu gênant. Là, on a une prise en main, une jouabilité qui rappelle beaucoup plus Splinter Cell.
Oui, c'est vrai.
Alors, oui, qu'est-ce que vous en
pensez? Ça rappelle plus les first-person shooters que Splinter. Moi, ça me rappelle plus Resident 4 ou des FPS à cause de la vue épaule et de la vue subjective. Mais,
Non, Resident 4 est plus rigide. Là, t'as plus de liberté à la Splinter Cell, justement. Mm-hmm. Donc, cette vue à la troisième personne, comme ça, où tu vas aller dans les angles et faire bouger le personnage en bougeant la caméra en même temps pour
donc,
aller voir.
Caméra complètement libre.
Caméra complètement libre. Et
possibilité
puis surtout,
de se mettre en vue à la première personne et d'avancer.
Et surtout, la vue. Caméra épaule, ouais. Voilà. Donc, tout ça ensemble. Enfin, on sent vraiment les inspirations occidentales, c'est évident. Et puis dans le déroulement aussi, on parlait de Call of Duty tout à l'heure. Ouais. Il y a une ambiance de guerre qui est omniprésente, très très forte, quoi, très forte à la Call of Duty.
Cap.
Moi, je trouve qu'il y a quand même une rigidité qui reste bien hallucinante. Par rapport justement à Call of Duty où tu peux quand même te pencher et tirer sur les côtés des murs,
ouais,
tu peux
faire
grimper
aussi,
sur les trucs. C'est hyper, la prise en main, elle est vraiment beaucoup, beaucoup plus limitante.
Mais c'est vrai que ça reste troisième personne.
Voilà, ça reste troisième personne. Ça veut dire que t'es sur une terrasse, t'as un muret, tu peux pas te pencher pour tirer sur les mecs qui sont en bas. Tu sens vraiment très très vite le développeur
passer,
a prévu que t'allais passer.
Il faut que tu passes en vue subjective si tu veux le faire et c'est un peu galère parce que t'es plus sur deux boutons.
Même pas parce que tu peux pas. Il y a vraiment des endroits où t'as pas la hauteur nécessaire et c'est fait pour pas que tu t'y mettes en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est genre là j'ai pété la terrasse.
Ouais,
c'est vrai que ça reste contraignant comme game design et un peu
level design.
Comme
level design, c'est quand même des endroits que tu peux pas sauter, des choses comme ça.
T'es très loin justement de ce qu'essayent de faire les mecs avec Assassin's Creed, etc. où t'es vraiment libre et où les mecs prévoient pas complètement ce que t'es censé aller faire et où t'es censé aller. Là, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus sec, beaucoup plus rigide et ça se voit ne serait-ce que dans l'animation de Snake qui est toujours un petit peu, on va dire, rigide.
Oui. Julo, tu voulais réagir.
Non, mais cela dit, pour pas que la formule Metal Gear se trahisse complètement, parce que déjà, elle évolue beaucoup, j'ai l'impression qu'il doit quand même, il doit rester une certaine rigidité et une certaine façon de concevoir les niveaux, etc. C'est quand même plus ouvert, c'est plus...
Quelque chose qu'on ressent aussi avec l'intelligence artificielle des ennemis.
Oui, bien sûr. Qui est très limité,
qui est très artificiel.
Voilà, qui est assez artificiel. Mais nous, ce qu'on se demandait, alors nous taxait pas d'être fan ou quoi que ce soit, ça n'a vraiment rien à voir. Mais on se demande pas si finalement c'est un peu la marque des Metal Gear qui est là, ça reste du jeu.
C'est
pour
ce
qu'on soit pas finalement embêté à chaque fois de
ça
se retrouver game over tout de suite. Quoi.
Ouais, ça fait partie du jeu. Ouais. Et on s'est posé un peu aussi, on s'est posé un peu la même question sur le côté vraiment très réaliste, alors qu'en fait on peut accéder par exemple à des armes ou des machins, etc. Enfin, il y a toujours un côté très jeu vidéo quoi en fait, et ça moi je trouve que c'est important,
c'est
que
plaisant.
Ça reste c'est important que ça reste
en fait. Il y a des choses, il y a des idées qui servent le gameplay et tant pis si ça bousille le réalisme du truc quoi.
Voilà.
Maintenant le côté effectivement de l'intelligence des mecs, ils sont tellement balèzes quand t'en prends 3 ou 4 sur la gueule, heureusement qu'ils sont un peu concon et qu'ils te voient pas direct, parce que sinon je pense qu'on fait pas 2 mètres, on crève sans arrêt. Donc je pense que ça va avec quoi.
Julo.
Et puis dernier petit truc, parce que j'imagine qu'on va pas en dire beaucoup plus, mais
non.
Voilà, c'est quand même l'inventivité dans le design, dans les différents personnages,
certaines créatures.
Voilà, c'est, enfin moi ça me ça me fait presque dire, voilà, c'est quand même con qu'on se tape pas un autre MGS bientôt, quoi. C'est triste que ce soit le dernier. Enfin, on verra, mais
ça risque
ça
pas,
ne sera pas le dernier.
Parce
ça
que c'est quand,
par
unique, c'est quand même unique au niveau du design, du mélange,
c'est le
fiction.
Seul jeu. Voilà, c'est ça. Voilà. Espèce de fantasmagorie incroyable.
Voilà, la partie du réalisme, aller dans des.
Un Splinter Cell, mais.
Voilà, Splinter Cell, ça reste froid, très.
Ah bah c'est, ça.
C'est
du Tom Clancy,
tu vois,
ouais.
Ça a l'air. Hein. Metal Gear reste vraiment avec sa marque, son originalité.
C'est la vraie science-fiction.
C'est vraiment très différent. Ah, oui. Tu voulais.
Ouais, effectivement, on critiquait juste titre l'IA des soldats de base qui sont dans le truc et qui font toujours un peu la même chose et qui n'ont pas beaucoup évolué. Ceci étant dit, il y a quand même des trucs dans certains ennemis qui arrivent plus tard, la façon dont ils se déplacent, dont ils exploitent un peu les niveaux dans lesquels tu trouves qu'ils sont quand même nettement plus impressionnants. Parce que mine de rien, l'intelligence artificielle, c'est aussi la façon dont les ennemis trouvent leur chemin dans un niveau. Et de ce point de vue-là, il y a quand même des trucs
oui,
assez impressionnants.
C'est vrai. Ouais.
Bon, comme disait Raon, ceci étant dit, mine de rien, on va pas en faire des plombes non plus, puisque la semaine Metal Gear Solid 4 est très très loin d'être finie, puisqu'il nous reste encore, eh bien, demain, on l'a dit, hein, avec un rendez-vous avec toutes les bonus, on va dire, de l'interview que vous avez vécu il y a quelques instants, et vous pouvez réécouter à l'envi, d'ailleurs sur gameblog.fr. Et puis, eh ben, vendredi, on vous en dit pas plus, mais enfin, on vous en apprendra encore un peu plus sur le jeu, sur nos impressions. On va affiner encore un petit peu tout ça.
Non, moi je fais rien surprises. Vendredi.
Voilà. En tout cas, nous, nos impressions globalement sont plutôt bonnes, hein, très clairement.
Rassuré.
On a eu un peu peur. Ouais, on va pas vous le cacher. Hein, première prise en main, bon, c'est.
On n'est pas encore sorti du tunnel. Hein.
Exactement. Il reste encore beaucoup de choses à voir. Hein,
disons que le feeling est bien meilleur.
Il y a plein de choses à voir et il y aura certainement une période pour le digérer, un peu comme Metal Gear Solid 2 c'est à l'époque. À mon avis, il va falloir le digérer aussi.
Ah bah ça fait vraiment partie des titres. D'ailleurs, Hideo Kojima le disait il y a quelques instants. Il parlait de peut-être que dans 10 ans, les joueurs ressentiront vraiment un message ou quoi que ce soit.
Bah écoute, on se donne rendez-vous dans 10 ans.
On se donne rendez-vous dans 10 ans.
On ne chante pas.
Non, merci.
Allez.
Mais effectivement, c'est un jeu, à mon avis, il faut le finir, il faut laisser passer un petit peu de jours, quelques temps en tout cas, pour vraiment se rendre compte de comment on l'a vécu, comment on l'a intégré, et puis chacun avec son histoire, avec son ressenti.
Si on
l'a
déjà vu, on comprend tout de suite, super.
Exactement. Qui est Allsnake ? Qui sont ces personnages ? Eh bien, vous le saurez dans quelques heures, vous, si vous achetez ce jeu, et puis plus tard, si vous ne l'achetez pas, un jour,
un jour peut-être.
Vous êtes libre en tout cas. En tout cas, voilà, c'était le podcast 61 de Gameblog.fr, un podcast vraiment événement avec Hideo Kojima, Yoji Shinkawa et Yumi Kikuchi. Ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir le réaliser. Un grand merci aussi aux équipes de Konami qui l'ont rendu possible. Nous, on vous dit bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau podcast exceptionnel aussi, toujours plus d'exception sur Gameblog.fr.
Là, t'avances un peu là.
Oui, peut-être. On ne sait pas. Miyamoto la semaine prochaine, on vous le dit
voilà.
Ça tout de suite.
C'est
ou pas, vous verrez. En tout cas, ça nous a fait plaisir. La semaine Metal Gear Solid continue. Puis d'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Et puis surtout, n'hésitez pas dès demain à nous dire ce que vous pensez de Metal Gear Solid 4. Allez, ciao, ciao.
Salut.
Ciao.